La venue de Turin à Bréthil. Or donc Turin descendit vers le Sirion, et il sentait en son esprit un déchirement. Car, lui semblait-il, si auparavant il avait eu deux choix, amers tous deux, voici qu'il en avait trois. Il appelait son peuple opprimé, à qui il n'avait apporté qu'un surcroît de malheur. Un seul réconfort lui restait, en ce que, grâce aux exploits du noir épée de Nargothrond, les chemins du Doriath s'étaient ouverts à Morwen et Nienor. Et il se prit à songer, « Quand bien même je serais venu plus tôt, je n'aurais pu les confier en des mains plus sûres, car si la ceinture de Melian cède, c'en est fini de nos espoirs. Non, les choses sont mieux ainsi, car par la fureur qui est en moi et par mes actes inconsidérés, je jette une ombre partout où je vais. Que Melian les garde, et je les laisserai vivre en paix pour quelque temps, loin de mon ombre. » Mais trop tard se mit-il en quête de Finduilas, parcourant les bois sous les escarpements des Eledwethrin, défiant comme une bête sauvage. Et il s'embusqua sur toutes les routes qui menaient au nord vers la passe du Sirion. Mais il venait trop tard, car les pluies et les neiges avaient brouillé toutes les pistes. Or voici que, descendant le cours du Teiglin, Turin tomba sur des hommes de Haleth, vivant en forêt de Bréthil. La guerre les avait fort réduits en nombre, et ils habitaient pour la plupart secrètement, à l'abri d'une palissade fortifiée sur l'Amon Obel, au cœur de la forêt. Et ce lieu avait pour nom Efel Brandir, car son père ayant été tué, Brandir, fils de Andir, était maintenant leur seigneur. Et Brandir n'avait rien d'un homme de guerre, car il boitait d'une jambe qu'il s'était cassée enfant par accident. Et il était homme de douce nature, aimant le bois plutôt que le métal, et préférant à toute autre science le savoir des choses qui croissent en terre. Mais certains de ces forestiers s'obstinaient à traquer l'orque à leurs frontières. Et ainsi, advint-il que Turin, errant dans les parages, perçut le cliquetis d'une mêlée. Et lui dit courir, mais prudemment néanmoins, s'avançant à pas furtifs parmi les arbres. Et il vit une petite troupe d'hommes encerclés par des orques. Il se défendait désespérément, le dos à un boqueteau, qui poussait à l'écart dans une clairière. Mais les orques étaient en nombre, et sauf à être secourus, les hommes avaient peu de chances de réchapper. Aussi, prenant bien garde de rester au couvert des bois, Turin se mit à faire grand tapage avec force piétinement et branches cassées, et puis s'écria d'une voix haute et claire, comme s'il menait au combat toute une compagnie, « Holà, vous autres! Les voilà! Suivez-moi! À l'assaut et qu'on les tue !» À ces cris, nombre des orques de saisissement se retournèrent, et Turin se précipita d'un bond, gesticulant comme s'il appelait ses hommes à le suivre, et le tranchant de Gurthung étincelait comme flamme dans sa main. Les orques ne connaissaient que trop bien cette lame, et avant même que Turin ait sauté parmi eux, ils s'étaient débandés au loin et enfuis. Les forestiers s'empressèrent de se joindre à lui, et ensemble ils pourchassèrent leurs ennemis et les jetèrent à la rivière, et peu parmi les orques la traversèrent. Enfin les forestiers firent halte sur la rive, et Dorlas, leur chef, dit « Tu es rapide à la course, seigneur !» Mais tes hommes sont lents à suivre. Non pas, dit Turin. Nous courons de concert comme un seul homme, et jamais ne nous séparons. Et les hommes de Bréthil de rire, et ils dirent, Eh bien, un seul de ta force en vaut certes plusieurs, et nous te devons une grande reconnaissance. Mais qui es-tu, et qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais guère que mon métier qui est de tuer de l'orque, dit Turin. Et je vis là où s'exerce mon métier. Je suis l'homme des bois. « Alors viens donc vivre avec nous, » dirent-ils, « car nous habitons la forêt, et nous avons bien besoin d'artisans de ton espèce. Tu seras le bienvenu. » Sur ce, Turin les regarda étrangement et dit, « Existe-t-il donc ceux-là qui souffriraient que j'assombrisse leur seuil? Mais, ami, il me faut d'abord mener à bien ma quête douloureuse. Je dois retrouver Finduilas, fille d'Orodreth de Nargothrond, ou du moins apprendre de ses nouvelles. Hélas, bien des semaines se sont écoulées depuis qu'elle a été emmenée de Nargothrond, mais il me faut coûte que coûte poursuivre. » Alors les forestiers le considérèrent avec compassion, et Dorlas dit, « Ne cherche plus, car une colonne d'orques est passée qui venait de Nargothrond et se dirigeait vers les passages du Teiglin, et nous en fûmes avertis longtemps à l'avance. Elle cheminait lentement à cause du grand nombre de prisonniers qu'elle escortait, et nous avons voulu frapper nous aussi notre coup. Si modeste soit-il dans cette guerre, et avec tous les archers que nous pûmes rameuter, nous dressâmes une embuscade, et nous avions bon espoir de sauver quelques-uns des prisonniers. Mais hélas, dès qu'ils se virent attaqués, ces orques infâmes tuèrent leurs captives d'abord, et avec une lance, ils clouèrent à un arbre la fille d'Olodreth. Turin demeurait là, un homme touché à mort.
« Comment le savez-vous ? » dit-il.
« Parce qu'elle s'adressa à moi avant de mourir, » dit Dorlas. « Elle nous dévisageait tous, comme si elle cherchait quelqu'un qu'elle attendait. Et elle dit, « Mormegil, dites au Mormegil que Finduilas est ici. » Et puis se tut. Mais en raison de ses dernières paroles, nous lui avons donné sépulture à l'endroit où elle expira. Elle repose sous un tertre proche du Teiglin. C'était il y a un mois de cela.
« Menez-moi en ce lieu, » dit Turin.
Et ils le conduisirent à une petite butte près des passages du Teiglin. Et parvenu là, il s'effondra et sombra dans une torpeur si noire qu'ils le crurent mort. Mais Dorlas, le contemplant couché là, se tourna vers ses hommes et dit, « Trop tard, voici un funeste hasard. Car voyez donc, si gît le Mormegil en personne, l'illustre capitaine de Nargothrond. À son épée, nous aurions dû le reconnaître comme on fait les orques. » Car la gloire du noir épée qui guerroyait dans le sud était parvenue au plus profond des grands bois. Ainsi, ils le soulevèrent avec révérence et l'amenèrent à Efel Brandir. Et Brandir, venant à leur rencontre, s'étonna fort de cette civière qu'il portait. Et retirant la couverture, ses yeux rencontrèrent le visage de Turin, fils de Hurin, et une ombre envahit son cœur. « Ô homme de Haleth, homme cruel !» s'écria-t-il. « Pourquoi avez-vous soustrait cet homme à la mort ? À grand labeur et peine, vous avez amené jusqu'ici l'ultime fléau de notre peuple !»
Mais, dirent les forestiers,
« Non pas, c'est le Mormegil de Nargothrond, un fameux tueur d'orques. Et s'il survit, il nous sera d'un grand secours. Mais même sans cela, devions-nous abandonner un homme terrassé par le malheur au bord de la route comme une charogne ?»«
Certes non, » dit Brandir. « Le destin en a décidé autrement. »
Et il prit Turin dans sa demeure et lui prodigua ses soins. Et lorsque Turin émergea enfin des ténèbres, le printemps était revenu. Et il s'éveilla et vit le soleil sur les pousses verdissantes. Alors s'émut également en lui le courage de la maison de Hador, et il se leva, et en son cœur il se dit « Mes actions et mes jours révolus ont été sombres et emplis de mal. Mais voici qu'un jour neuf est venu. Ici je demeurerai en paix, et je renoncerai à mon nom et à ma parenté. Et peut-être laisserai-je ainsi mon ombre derrière moi, ou du moins ne la projetterai-je pas sur ceux que j'aime. » C'est pourquoi il prit un nouveau nom, s'appelant lui-même Turambar, c'est-à-dire « maître du destin en haut elfique ». Et il vécut parmi les forestiers, et ceux-ci lui vouèrent de l'affection. Et il les engagea à oublier qu'il eût jamais porté un autre nom et à voir en lui un natif de Brethil. Toutefois, changeant de nom, il ne pouvait changer de caractère, ni perdre toute mémoire de ses anciens griefs contre les serviteurs de Morgoth. Et il allait chasser l'orque en compagnie de certains qui partageaient sa disposition d'esprit, bien que cela déplût fort à Brandir, qui espérait plutôt protéger son peuple par le silence et le secret.
« Le Mormegil n'est plus, » disait-il. « Cependant, prends garde que la vaillance de Turambar ne déchaîne sur Brethil une vengeance semblable. »
C'est pourquoi Turambar remisa sa noire épée et ne s'en servit plus au combat, maniant plus volontiers l'arc et la lance. Mais il ne souffrait pas que les orques empruntassent les passages du Teiglin et qu'ils s'approchassent du tertre où reposait Finduilas. Et on l'avait nommé Aud en Eleth, le tertre de la jeune elfe. Et bientôt, les orques apprirent à redouter ce lieu et à l'éviter. Et Dorlas dit à Turambar,
« Tu as renoncé au nom, mais le noir épée tu demeures. Et à en croire la rumeur, n'était-il pas le fils de Hurin du Dorlomin, seigneur de la maison de Hador ?»
Et Turambar répondit, « Je l'ai entendu dire, en effet. Mais je t'en prie, si tu es mon ami, ne le divulgue point. »